On va commencer, si vous voulez bien, par la prière. Éternel, notre Dieu, notre Roi, c'est vrai, quand nous te contemplons, quand nous prenons conscience de ce que tu es, de la sainteté, de ces choses, et que ce miroir, Seigneur, nous reflète simplement ce que nous sommes. Pardonne-nous, Seigneur. Je veux te rendre grâce parce que c'est vrai, Jésus-Christ est venu. C'est vrai que Jésus-Christ a tout accompli sur la croix. Je veux te rendre grâce parce que sans lui, Seigneur, on ne serait pas sauvés. Je veux te rendre grâce parce que notre salut, Seigneur, ne dépend pas de nous. Je veux te rendre grâce parce que tu as mis en nous le Saint-Esprit. Tant de choses, Seigneur, pour nous garder. Pour nous garder jusqu'au bout. Pour nous protéger. Pour nous dire, c'est pas grave. Je suis là, je suis avec toi, j'ai tout accompli sur la croix. Prends courage, fortifie-toi et avance. Merci Seigneur pour cette prédication que nous voulons remettre entre tes mains. Pardonne-moi encore Seigneur, merci pour ta bonté, en Jésus, amen. Je vais mettre mes lunettes parce que je vieillis. Je suis le seul ici à vieillir, hein, c'est sûr, hein, mais je vieillis. Je pars d'une petite question qu'on m'a posée et qu'on me pose de temps en temps, c'est bien ce que tu dis, mais c'est trop théorique. Comment je peux faire pour mettre ça en pratique dans ma vie? Tout ce qui est dit dans la Bible, c'est bien, mais comment vais-je faire pour le mettre en pratique? On me l'a déjà posé cette question et j'y ai souvent réfléchi. Aujourd'hui, j'aimerais voir s'il y a une petite réponse, par exemple. En y réfléchissant, je me suis dit que c'est pas la première fois qu'on a posé cette question. Et on l'a déjà posée à Jésus-Christ. Et la réponse de Jésus-Christ, c'est pas toujours celle qu'on attend, malheureusement. Jésus, il est tellement parfait, tellement ce qu'il est, qu'on a du mal à gravir cette montagne qu'il représente. Alors, on va lire Marc 10, 17 à 27, pour voir quand est-ce qu'on a bien pu lui poser cette question. Je sais pas donner les bons, si. Excuse-moi. Mais on peut descendre, hein. Je peux pas faire ça, moi, sur l'écran, je peux pas. C'est dommage, hein. Là, je peux, hein, mais là, je vois. Donc, 17. À 27. Voilà. Écoutez ça. Quand Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Bon, je vais. Et il dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Vous voyez la montagne? Vous voyez la montagne que, que Dieu met devant nous. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé ? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Même les disciples sont conscients que c'est une montagne infranchissable ce que Jésus vient de dire. C'est difficile. Je pense que le jeune homme riche avait tout simplement envie de s'entendre dire, eh bien, tu es un bon serviteur, continue dans ce sens-là, c'est bien. C'est très bien. Malheureusement, ce n'est pas ce que Jésus dit. En fait, cet homme, qu'est-ce qu'il a ? Il a la théorie. Et ce qui lui manque, c'est la pratique. Il a appris dès son jeune âge ce qu'il devait faire. Et il l'a appliqué sans comprendre réellement le bon fonctionnement. Pourtant, nous voyons que dans le texte, que Jésus l'aima. Jésus l'aime pour tous les efforts qu'il est en train de faire, pour tout ce qu'il a fait parce qu'il l'aime. Oui. Mais Jésus, voyant son cœur, comprend que cela va être très difficile pour lui de se détacher de son trésor. Et la Bible nous dit, Matthieu 6, 21, et ça je ne lui ai pas donné, je vais juste vous le citer, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Cet homme est très attaché à son trésor, plus qu'à Dieu. Jésus le sait, et c'est pour cela qu'il met le doigt dessus. Le doigt où ça fait réellement mal. Le doigt où il y a là un problème. Revenons à la théorie. Pour devenir médecin, il faut passer énormément d'études. Énormément d'études. Vous le savez. Après les études, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut encore de la pratique. Il faut encore continuer à apprendre. Et le médecin va devoir apprendre toute sa vie. Et si il apprend bien toute sa vie, peut-être qu'un jour, avec son expérience, il arrivera à devenir bon. Un bon médecin. Un autre exemple qui est plus proche de nous, où tout le monde, je pense, ou presque tout le monde, nous sommes passés par là, c'est le permis de conduire. Permis de conduire est dissocié. Il y a une partie théorique et une partie pratique. La théorie, me semble-t-il, c'est la plus facile. On a un livre, on apprend, on s'entraîne. Maintenant, il y a même l'ordinateur, on peut même répondre aux questions comme si on était à l'examen. La théorie. Et puis, il y a la pratique. Et là, on passe quelques heures en cours, on passe un examen, et si tout va bien, ça y est, on a notre permis. Magnifique. Merveilleux. Merveilleux. Et quand on commence à aller sur la route, qu'est-ce qui se passe ? Waouh. Waouh. On se rend compte au premier accident que, si on avait été un peu plus sage, peut-être qu'on n'aurait pas fait ça. On se rend compte aussi que sur la route, il y a des gens qui ont l'air de vouloir oublier tout ce qu'ils ont appris. On se rend compte que le plus dangereux, parfois, c'est pas nous, c'est celui qui est à côté de nous. Ce que Jésus dit à cet homme, c'est cela. Pour pouvoir le suivre, il va falloir que tu réapprennes une autre façon de vivre. Ta théorie, c'est très bien. C'est bien. Sa théorie, c'était « honore ton père et ta mère ». Sa théorie, c'était « respecte les autorités ». Ta théorie, c'était tout ce qu'il a dit. Ça, c'est la théorie. Maintenant, il y a la pratique. Et qu'est-ce que Jésus lui dit ? Qu'est-ce que Jésus lui demande ? Dans la pratique. Il lui dit pas, écoute, quand tu vas aller à ton travail, c'est simple. Au lieu de prendre le chemin qui va à gauche, prends le chemin qui va à droite. Quand tu vas aller à une fête, fais attention comment tu es habillé. Non. Quand tu viens à l'église, fais attention. Fais attention. Non. Non, il lui dit pas ça. Il lui dit, vends tous tes biens. Vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Sans même savoir, sans se poser la question de savoir ce qu'ils vont en faire. Donne-le aux pauvres. Et ton trésor ne sera plus sur terre, mais ton trésor sera au ciel, où la teigne et la rouille ne peuvent. Ce que Jésus veut enseigner à cette foule, c'est que pour suivre Jésus, il va falloir apprendre et réapprendre une nouvelle façon de vivre. Que s'ils viennent avec leur conception de la vie, ils ne pourront pas le suivre. Cela ne marche pas, et la dernière phrase nous le dit bien, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Il ne dit pas que cela est impossible, non. Mais il dit que pour les hommes, avec leur compréhension de la vie, cela est impossible. Mais que par contre, avec Dieu, cela est possible. Ce que Jésus a demandé à ce jeune homme riche est possible. Bien que ce jeune homme riche considère que c'est impossible. Ouais. Et pour cet homme, c'est vrai, c'est impossible. Ça, c'est la théorie. La pratique, c'est être capable justement de dire, puisque tu dis que c'est possible, et puisque moi je crois que tu es celui qui dit que c'est possible, alors tout est possible. Nous avons lu dans Marc, mais dans Matthieu, il y a encore quelque chose d'autre. Un peu plus que ce texte-là. Et je vais vous donner Matthieu 19, 25, 30. Ce que les disciples vont réellement dire à Jésus, en fait. Ce sont les disciples, n'oubliez pas. Ce n'est pas le jeune homme riche. C'est le disciple. Celui qui suit Jésus. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Pierre, venant alors la parole, lui dit « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il de nous ?» Jésus leur répondit « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme » aura au renouvellement pardon, de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque, ça c'est Jésus qui le dit, hein, et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Cette phrase, j'aime bien, moi. Je considère qu'on est dans les derniers temps. Je considère d'être dans les derniers, donc peut-être j'aurai plus... Je blague. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit à ses disciples, « Eh bien, c'est bien, parce que vous avez été capables de tout abandonner pour moi. Vous aurez une place au ciel. » Ils ont été capables de tout abandonner. Pas comme ces jeunes hommes riches. Ce jeune homme riche qui n'avait que la théorie, ont la théorie et la pratique. Eux, ils l'ont pratiqué, cette théorie. Eux, ils sont réellement entrés dedans, cette théorie. Eux, ils l'ont vécu, cette théorie. Mais on voit plus loin que d'autres disciples ont posé cette question, différemment. Et on voit ce que Jésus répond. Luc 9, 57-62. Vous allez voir la différence qu'il y a entre la théorie et la pratique. Ça va ? Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Waouh ! Ça, c'est moi, ça. Ça, c'est moi. « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Partout, partout, je veux faire tout ce que tu veux. » Ah ! Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Oula. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi va, annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord, prendre congé de ma famille, de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Quiconque est capable de parler de sa théorie et de ne pas pouvoir la mettre en pratique n'est pas capable de suivre Jésus. Jésus est quand même difficile. Il exagère, peut-être. Il est trop sévère, trop dur. La réponse qu'il donne, c'est normal. Moi, personnellement, je ne veux pas ça. Notre théorie, notre image de Jésus-Christ, notre image de Dieu, elle est comment ? Dieu est grand, Dieu est beau, Dieu nous aime, Dieu est souverain. Notre pratique de notre théorie, c'est de dire, mais je n'ai rien à faire puisque Dieu est beau, Dieu est grand, Dieu est amour, Dieu, 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 Dieu. J'ai juste regardé un mot de ce texte que nous venons de lire. Et le mot, c'est « n'est pas propre ». On a lu « n'est pas propre ». En fait, quand on traduit ce mot du grec au français, on pourrait dire aussi « utilise ». « Utilisable ». « Propre », c'est « utilisable ». Ou « bien disposé ». Donc, on est inutilisable avec notre théorie. Avec notre théorie, nous ne sommes pas bien disposés. Nous sommes inutiles avec notre théorie. Voilà la réponse que Jésus nous donne. Il met en opposition ceux qui sont prêts à tout abandonner avec ses disciples, qui eux l'ont fait, et ceux qui sont prêts à le suivre, mais qui ne sont pas prêts eux-mêmes à tout abandonner. Nous avons vu que pour les riches, ça allait être très difficile. C'est vrai. Comment faire passer un chameau dans le chat d'une aiguille? C'est quand même très, très, très... L'image, elle est vraiment forte. Pour dire que ça va être très, très, très difficile. Pourtant, on connaît un riche qui lui, ça lui était tout simple. Vous pouvez, non, vous voyez pas qui ça peut être? Je vais vous donner un petit indice. C'est un petit homme qui a fait une grande chose. Vous voyez mieux? Zachée. Qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de Zachée? Je vous le lis. Luc 19, 2, 8, je vous l'ai donné? Non, alors je le lis. Et voici un homme riche et très riche, appelé Zachée, chef des publicains. Waouh, ça c'est quelque chose. Hein. Chef des publicains. Cherchait à voir qui était Jésus. Plus loin, au verset 8, si tu nous l'affiches, voilà. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » La moitié de tous ses biens. Beaucoup, hein? C'est plus que deux fois ce que moi... Enfin, vraiment. Jésus lui dit, parce qu'on a le verset 9, il est là, je vous le lis, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Comment ça se traduit dans sa vie? Comment cette pratique qu'il vient de percevoir, comment il arrive à le mettre en pratique, cette théorie qu'il vient de percevoir, comment il le met en pratique dans sa vie? Il fait quoi? Il dit, c'est pas grave. De toute façon, mon trésor, lui, il est au ciel, donc c'est bon. Donc tout ce que j'ai sur la terre ne m'appartient plus, je peux tout donner. Il y a au moins la moitié. Au moins le trois quarts. Alors tout cela pour dire quoi? La Bible ne dit pas comment on doit faire. Je vous ai dit tantôt. La Bible ne nous dit pas, quand tu vas à ton travail, prends cette route-là, c'est mieux. Prends pas celle-là. Non. La Bible ne nous dit pas quand tu viens à l'église. Non. La Bible ne nous dit pas ça. La Bible nous montre un schéma que nous devons mettre en pratique dans notre vie. Nous sommes un peu libres, un peu, beaucoup libres. Libres de faire comme nous voulons. Jésus-Christ nous a apporté la liberté. La liberté de dire, moi aujourd'hui, j'ai pas envie de me lever, je me lève pas. Moi, aujourd'hui, aujourd'hui, pour aller à mon travail, je vais passer par là. Moi, oui, nous sommes libres. Ça, c'est autre chose. Maintenant, mettons en pratique. Comment mettons en pratique? La toile de la parole de Dieu. Là aussi, nous sommes libres de la mettre en pratique ou pas. Là aussi, nous sommes libre de dire, ah ça je le fais, ça je le fais pas. Oui? Ou non? Sommes-nous réellement libres de dire ça? Si nous revenons au premier texte et si nous venions à poser cette question, que dois-je faire pour te servir? Que dois-je faire, si je prends le texte, c'est que dois-je faire pour être sauvé? Aujourd'hui, c'est que dois-je faire pour être heureux? Que dois-je faire pour être un bon serviteur? Que dois-je faire pour avoir du succès dans mes affaires? Non, excusez-moi, c'est une chanson. Que dois-je faire pour avoir du succès dans ma vie? Que dois-je faire pour être reconnu comme spirituel? Que nous dirait Jésus? Et que répondrait Jésus? Je pense que Jésus, ce qu'il a essayé d'expliquer à ce jeune homme riche, c'est ça. C'est pas de tout donner. Jésus sait très bien qu'on a besoin d'argent. Jésus le sait. Il sait tout. Mais il sait ce qui coince dans nos vies. Et pour ce jeune homme riche, ce qui coinçait, c'était justement ça, ce trésor qu'il ne voulait pas, qu'il n'était pas capable d'abandonner. Si nous posons cette question à Jésus, la question sera jamais la même, enfin la réponse, pardon, ne sera jamais la même. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous différents. Nous avons tous quelque chose en nous que nous voulons tenir, que nous voulons garder. Je veux bien te servir, Seigneur, mais permets-moi. Permets-moi. Des exemples forts pour nous expliquer simplement ce qui se passe dans nos vies. Jésus nous dirait simplement d'être capable. Capable de l'abandonner, d'être prêt à l'abandonner. Quand Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils, Dieu sait très bien que ça ne se fera pas. Dieu le sait. Mais Dieu a juste montré à Abraham qu'il était capable, capable de le faire. C'est plus de la théorie. C'est fini la théorie. Maintenant, nous sommes dans la pratique. Notre engagement n'est pas total. Or, si nous voulons le suivre, si nous voulons suivre Jésus, nous devons être prêts à tout abandonner. Pas tout abandonner, mais prêts à tout abandonner. Et pas dans la théorie, pas dans les mots. Non. Dans le vécu. Ce que Jésus nous demande, c'est jamais, jamais, jamais pour nous faire du tort. Bien au contraire. Nous savons que Dieu nous aime. Nous savons que Dieu veut prendre soin de nous. Nous savons ces choses. Oui, c'est vrai. Donc jamais Dieu n'a voulu faire du tort à Abraham. Non, au contraire. Au contraire. Ça l'a fortifié. Tout est dans le laisser aller, dans la confiance que si Dieu nous demande quelque chose, que c'est pour notre bien, tout simplement. Jamais pour nous faire du tort et que même la mort, comme nous dit l'apôtre Paul, met un gain. Jamais pour nous faire du tort. Nous ne sommes pas l'apôtre Paul, c'est vrai. Mais c'est le même esprit qui lui a dit, qui lui a fait dire ces choses. Car c'est par l'esprit qu'il le dit. La mort m'est un gain. Ce n'est que spirituel. Si vous dites au monde, la mort, vous êtes un gain, ils vont vous traiter de fou, hein. Mais l'apôtre Paul lui était capable. Voilà la limite de l'apôtre Paul. Voilà dans sa théorie ce qu'il est capable de dire. La mort m'est un gain. Mon corps, ma vie, ça n'a pas d'importance. Si je meurs maintenant, sous les cailloux, sous les coups de fouet, sous le bâton, c'est pas grave. Galates 5, 16 dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les choses de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Je vais relire ça. C'est 16 et 17. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. La chair est pleine de théories. Notre chair est pleine de théories. Et l'esprit est plein de pratiques. Quand j'étais jeune, j'entendais souvent ça, parce que autour de nous, il y avait ce genre de problème, une parole d'ivrogne. Demain, j'arrête de boire. Et l'ivrogne disait, tous les jours, tous les matins, demain, j'arrête de boire. Demain, j'arrête de boire. Demain, j'arrête de boire. De la théorie. On a beau le dire, ce n'est quand même que de la théorie. Tant qu'on n'arrête pas, tant qu'on ne le fait pas, ce n'est que de la théorie. Le combat dans notre vie entre la théorie et la pratique, elle est normale. Nous le voyons bien. Il y a les désirs de la chair, les désirs de l'esprit. C'est normal que ces choses se combattent en nous. Ce qui serait moins normal, c'est qu'il n'y ait pas de ce genre de combat en nous. Et si nous n'avons peut-être pas plus de ce combat, peut-être que nous avons laissé le côté théorique diriger nos vies, pour abandonner le côté pratique. Peut-être nous l'avons fait trop souvent. Peut-être nous le faisons encore. Peut-être nous avons baissé les bras, posé nos armes spirituelles et nous avons cru que ce que notre chair nous disait, tu verras. Ça ira mieux demain. Tu verras. Ça ira mieux demain. Demain, j'arrête de boire. Tu verras. Ça ira mieux demain. Et tous les jours, c'est pas grave. Tu verras. Ça ira mieux demain. Et c'est vrai. Peut-être que ça va aller mieux demain. Alors si, comme moi, parce que franchement, j'ai juste tendance à le dire de temps en temps, mais peut-être ça lasse les gens, et le premier qui reçoit ce texte, c'est moi. Le premier qui reçoit cette baffe, c'est moi. Mais c'est pas toujours facile, enfin, dans ma vie à moi personnellement, pas toujours facile de prendre des baffes. C'est pas toujours, ça m'embête un peu. Mais c'est pas grave. Parfois, ça fait du bien. Je voudrais juste terminer par cette phrase. C'est Jésus qui dit ça. Cela est impossible aux hommes. Croyez-moi. Cela est impossible aux hommes. Ce que Jésus nous demande, c'est impossible aux hommes. Par contre, à Dieu, tout est possible. Et nous avons Dieu avec nous. Donc le tout est possible, habite en nous. Vous imaginez? Le tout est possible, habite en nous. Nous devrions nous rappeler cette phrase tous les jours de notre vie parce que c'est vrai aussi dans notre vie. Cela doit l'être. Maintenant, quand vous vous poserez cette question, que dois-je faire, Seigneur ? Posez-la différemment. Et dites, Seigneur, que dois-je être prêt à abandonner pour toi ? Pour pouvoir te servir. Seigneur, que dois-je être prêt à abandonner pour toi ? Pour pouvoir te servir. Que le Seigneur vous garde. Amen.